Le Festival international du film de Karlovy Vary s'est achevé le week-end dernier avec la consécration d'un film tchèque, Křižáček, le petit croisé en français, le premier à remporter la compétition principale depuis 15 ans. Mais il n'y avait pas que du cinéma tchèque au programme, c'est même plutôt le contraire. On pouvait ainsi, par exemple, découvrir un road movie aux accents farcis au cœur de la France avec Avant la fin de l'été, ou bien un drame psychologique sur le Chili contemporain aux prises avec les fantômes de la dictature de Pinochet avec Los Perros. Les deux réalisatrices de ces films, Mariam Gormactic et Marcela Saïd, vivent à Paris, mais c'est à Karlovy Vary que Pierre Maignan les a rencontrées.
Culture sans frontières.
مثلا همه برگشتن میتونیم بریم جنوب
برین خب من نمیدونم شما چه مقاومتی دارین
نه جدی جنوب دریا
شما بریم من با کوسمو جو برگردم
کی پروازه
دو هفته دیگه
نه جدی بریم.
Ils sont trois amis iraniens, Arash, Hossein et Ashkam, autour de la trentaine, et ils vivent à Paris. Manque de peau pour Hossein et Ashkam, Arash n'est pas totalement satisfait de sa vie en France et souhaite retourner en Iran, où il a l'idée de poursuivre des études de droit. Avant son départ, avant la fin de l'été, ils se lancent donc dans un ultime voyage, tous ensemble à travers l'Hexagone, vers la Méditerranée, pour convaincre leur acolyte de renoncer à son projet. Il s'agit du premier long métrage de Marianne Gourmaktig, projeté d'abord à Cannes dans la programmation Acide, puis en République tchèque début juillet au festival de Karlovy Vary.
C'est une première internationale déjà, et c'est une première fois en République tchèque, et je trouve le festival extrêmement accueillant.
Comment vous avez rencontré en fait les trois acteurs justement de ce film alors c'est Hossein, c'est Arash et c'est Ashkan.
En fait, j'ai rencontré ces trois garçons dans un café à Paris un soir d'hiver. Et c'est tout à fait par hasard. Il neigeait comme pas permis. Et on s'est réfugié dans le café avec des amis parce qu'on avait froid. Et je les ai vus. Ils parlaient leur langue, le persan. Et c'est une langue pour laquelle j'avais un grand intérêt parce que j'étais en train de l'apprendre à l'INALCO, qui est l'Institut des langues orientales à Paris. Parce que je suis iranienne et que je ne connaissais pas cette langue et j'avais besoin de renouer avec ma culture, quoi. Et on a tout de suite sympathisé et très peu de temps après, on s'est revus et puis revus. Et très vite, j'ai amené ma caméra et j'ai commencé à les filmer. Et voilà, ça, c'est un processus qui a duré 3 ans. Donc je les ai filmés pendant 3 ans. On est devenus très amis pendant cette période, très intime. Et le film, par contre, la durée du tournage, c'est 2 semaines et demie. On l'a fait vraiment dans l'urgence et voilà, dans une énergie comme ça. Parce que l'enjeu, en fait, c'est que Orache veut rentrer dans son pays parce qu'il ne s'est pas fait à la vie française, il ne se sent pas accueilli. Et ses deux amis espèrent l'en dissuader en lui faisant voir autre chose de la France que Paris.
Miss France, tu as la Miss France.
La Miss France, elle n'a pas.
À Karlovy Vary, avant la fin de l'été, était projeté dans la catégorie des documentaires. Mariam Gourmaktig, elle, ne s'embarrasse pas trop de ses soucis de catégorisation entre le réel et la fiction.
En vrai, ce qui se passe, c'est très spontané, en fait. Je savais, par exemple, les lieux, on avait 2 semaines et demie, donc je savais que j'avais envie qu'on se retrouve un 15 août à Noiretable parce qu'il y avait voilà, un défilé en grande pompe avec des miss de la région, etc. J'avais envie de les confronter peut-être à cette France-là. J'avais organisé par exemple la rencontre avec les filles. C'est deux amies à moi. Je leur ai dit, bon ben voilà, j'aimerais que vous participiez à mon projet de film. J'ai trois copains qui font un road trip et j'aimerais que vous les rencontriez et on va voir ce qui se passe. Et en réalité, j'ai choisi Charlotte et Michel parce que je savais que Charlotte avait un faible pour les garçons un petit peu enveloppés. Et je me suis dit, si ça se trouve, avec Orage, qui est un garçon très, pour le coup, très enveloppé, ça va peut-être marcher et peut-être qu'ils vont se plaire et que Orage va tomber amoureux, qu'il restera. Enfin, j'avais l'idée d'un happy end comme ça en tête. Et donc j'ai organisé cette rencontre, je l'ai filmée et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les personnages m'ont amené vers une autre direction et c'est très agréable parce qu'en fait finalement c'est aussi eux qui m'ont entraîné vers leur histoire. Et voilà, donc c'est un film qui est un peu, qui se sert du réel pour aussi construire un récit et vice-versa.
Parce qu'au final, Orache retourne en Iran. Est-ce que vous aviez réellement cet espoir qu'il puisse rester ? Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment imaginable ?
Non, en réalité, moi, j'avais pas. Je suis pas, comment dire, naïve. Et je pense pas qu'en 2 semaines et demie, on peut réellement changer le. Voilà, on peut pas dissuader quelqu'un. C'est une décision très importante et ça, c'est beaucoup, ça va bien au-delà de ça. Mais je trouvais que c'était un enjeu suffisamment dramatique et aussi rigolo pour construire un film. Parce que le film, c'est pas ça. En fait, le film, c'est raconter cette amitié avant tout et surtout parler de l'entre-deux dans lequel se situent les gens qui vivent à cheval entre deux pays.
Ce qui va me manquer le plus, c'est le rayon alcool du Carrefour, affirme Arash dans le film. C'était sans doute effectivement trop peu pour le persuader de rester en France. D'alcool et de thèmes divers et variés, il est question dans le long métrage, à l'occasion de nombreuses discussions philosophico-rigolotes entre les protagonistes. Ce sont elles qui rythment avant la fin de l'été.
Des discussions qui étaient très récurrentes dans quand on se voyait avec les trois personnages. Donc je m'en suis servi en fait pour le tournage, c'est-à-dire que par exemple pour pouvoir caractériser le personnage de Orache qui a pris du poids pour pouvoir être exempté du service militaire, par exemple ou bien le personnage de Hossein qui est dans une situation très complexe parce qu'il doit choisir entre partir faire son service militaire et se couper de sa vie ici ou rester mais se couper de sa vie en Iran parce que si on fait pas son service militaire on peut plus y rentrer, etc. C'est des choses dont je me suis servi pour mieux caractériser les personnages pendant le tournage. Par exemple, je leur disais voilà, j'ai envie qu'on parle de ça, les sujets ils les réabordaient mais sans regarder la caméra, entre eux. Donc voilà, quand j'avais besoin je raconte comment il a fait pour prendre du poids, pour être exempté, je disais à Hossein, voilà, est-ce que tu peux lui poser la question, comment il s'y est pris? Et puis voilà, je construisais un peu comme ça. Mais c'est toutes des discussions qu'on a eues en amont et qui m'ont servi vraiment pour écrire le film.
Comment ça s'est passé dans la voiture sur un si long trajet? J'imagine, enfin, c'est un road trip, il y a des choses qui se passent un peu folles toujours. Il y a Orache qui fume beaucoup, par exemple, dans cette voiture, ça ne va pas être toujours très agréable. Comment ça s'est passé?
Bah effectivement, pour moi, c'était dur parce qu'il n'y avait pas que Orache, mais il y avait aussi Hossein qui fumait dans la voiture. Donc, ça sentait la clope. Parfois, je leur disais stop, maintenant on arrête de fumer. Donc voilà, il y avait. Et puis, c'est pas toujours facile d'être avec trois garçons, je dois avouer. Même si c'est très agréable, parfois, j'en avais aussi marre, quoi, parce que on était dans un huis clos et puis on était fatigués. Il fallait, dès qu'on arrivait quelque part, il fallait monter les tentes, ranger les tentes. C'était épuisant pour tout le monde. Mais par ailleurs, c'était une expérience un peu folle. Et maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression que j'étais dans une sorte de transe parce que je dormais très peu. Je filmais tout le temps. Je mangeais quasiment pas, en fait. J'étais tout le temps en train de faire le film, quoi. Même je finissais de dérocher très tard dans la nuit. Je dormais quelques heures et le lendemain, on repartait. Donc, c'était très prenant et c'est comme si j'avais fait corps avec la caméra, avec le dispositif, parce que je gérais le son, l'image et l'organisation aussi du tournage, comme de la production en fait. Donc maintenant, avec le recul, je me dis que c'était une aventure complètement folle.
Mariana prend des cours d'équitation et son professeur est un personnage pour le moins intrigant dont elle apprend qu'il est poursuivi par la justice pour des faits remontant à l'époque de Pinochet. Mariana est intriguée et prend le parti de se rapprocher de cet homme plus âgé qu'elle au risque de mettre en péril l'équilibre de sa famille dont le passé ne semble pas non plus très net. Avec Los Perros, les chiens en français, la réalisatrice Marcella Saïd, qui revendique aussi une visée féministe, propose une virée au cœur des tourments de la bourgeoisie chilienne. Nous l'avons rencontrée après la projection de son film à l'hôtel Poupe de Carlo Vivari. Marcella Saïd, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la signification de ce titre? Qui sont les chiens, Los Perros?
Les chiens, bon, il y a les vrais chiens, ouais. Et puis il y a aussi les militaires. C'est-à-dire qu'on fait le sale boulot, un peu le boulot des chiens, comme on dit nous au Chili. Et on peut dire aussi qu'il y a tous ces hommes qui entourent les personnages principaux.
Alors ces militaires, en l'occurrence, dans le film,
C'est un colonel qui est poursuivi pour des exactions qu'il aurait commises sous la dictature de Pinochet. Et cette histoire, elle est inspirée un petit peu d'une histoire autobiographique. Vous pouvez nous raconter ?
Il y a quelques années, j'ai tourné un documentaire qui s'appelle El Mosquito, de Young Butler, en anglais. Et c'est l'histoire d'un jeune, qui à l'époque, c'était un jeune homme qui travaillait pour les chefs de service de la police secrète. Et il faisait le ménage, il servait le café. Et puis, il y a un colonel qui est venu, qui l'a connu là, dans la maison de Contreras, et qui l'a amené dans son centre de répression à faire la même chose, c'est-à-dire à servir du café pendant les sessions de torture. Et quand la police l'a retrouvé, 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, et lui, il s'est rappelé de tout, il a tout dit. Grâce à son témoignage, ils ont mis 70 personnes en prison. Et après qu'il a témoigné, il était laissé caché dans la forêt. C'est à ce moment-là où j'ai commencé le film. El Mosquito, c'est un portrait psychologique de ces personnages-là, où il raconte ce qu'il a vécu, mais on voit un peu son procès. Et c'était très compliqué parce qu'il racontait tellement de choses affreuses qu'il fallait rencontrer un autre personnage, quelqu'un d'autre qui puisse témoigner que c'était vrai. Et dans l'occurrence, j'ai retrouvé le vrai colonel, c'est-à-dire son chef. Et lui, le vrai colonel, était un prof d'équitation dans son petit centre à Santiago, de famille bourgeoise, et il ne voulait pas témoigner. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours d'équitation avec lui pour avoir son interview. Et j'ai pris des classes avec lui, des cours, pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il était allé en prison. Et basé sur mon expérience avec ces personnages, j'ai eu cette idée d'écrire les films, on va dire.
Parce que dans le film, on suit justement une femme de la bourgeoisie chilienne qui suit des cours d'équitation et où le colonel est son prof d'équitation. Vous pourriez nous décrire ce personnage de cette femme qui évolue dans cette bourgeoisie chilienne ?
Je voulais faire le portrait d'une femme bourgeoise qui appartient à cette classe qui a profité de la dictature, c'est-à-dire là, et puis avec un père qui est complice. Et comment la vie fait qu'elle tombe sur quelqu'un qui a commis des exactions de cette époque-là, et comment elle va gérer tout ça. Elle va gérer son passé, elle va gérer son mari, elle va gérer la justice, elle va se gérer un peu elle-même. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le portrait d'une femme qui est de jour au lendemain est confrontée à tout ça. Elle est très curieuse, mais en même temps, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle essaie de se libérer. Mais en même temps, il a un comportement très erratique et il n'arrive pas finalement, il n'arrive pas.
Vous avez à l'instant projeté, assisté à la projection du film. Comment s'est passé ensuite le débat avec le public tchèque ? Est-ce que les questions vous ont surprise ou...
Non, mais j'étais très curieuse. Enfin, je suis très curieuse par rapport à comment ils allaient réagir ou qu'est-ce qu'ils en pensent. Je voudrais savoir davantage d'ailleurs. Par contre, la petite discussion que j'ai eue avec quelques jeunes adolescents juste après les films, c'était intéressant car il m'a expliqué que les femmes, elles ne sont pas du tout comme les femmes chiliennes, où elles n'ont pas les mêmes problématiques et elles se sentent beaucoup plus libérées par rapport à la femme du film, etc. Et je me demande vraiment jusqu'à dans quelle mesure vraiment elles sont plus libres. Et je suis très curieuse de ça. Enfin, il faudrait peut-être vivre un tout petit peu plus dans le pays pour savoir s'ils ont vraiment gagné leurs droits, s'ils ont une relation vraiment horizontale avec les hommes, si on gagne le même salaire que les hommes, si vraiment on partage les travaux domestiques à la maison, et si c'est des femmes libérées même sexuellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent subir ses désirs, avoir des amants. Jusqu'à quelle mesure ils sont vraiment libres, je suis très curieuse de les savoir.
Vous êtes en train de me dire que vous allez vous installer en République tchèque pour le savoir ?
Ou investiguer davantage, oui.
Juste peut-être une dernière question. Vous nous disiez que vous ne connaissiez pas du tout la République tchèque auparavant.
Non.
J'aimerais savoir comment au Chili on connaît l'Europe centrale et est-ce qu'on a une idée un petit peu de la République tchèque, de ce que c'est ? Quelle idée on s'en fait ?
Ça me fait peut-être une mauvaise idée parce qu'on vivait dans le gouvernement Pinochet qui détestait les communistes déjà. Sans nous présenter tout ça, les pays communistes, comme quelque chose qui était... vraiment pas forcément une réussite, mais un échec total. Et c'est bizarre parce que quand on arrive dans le pays, enfin, même quand je suis arrivée à Prague et j'ai pris le chemin, j'étais étonnée de voir. C'est très beau d'ailleurs, c'est très très beau, la nature est très belle. Ce que je vois, peut-être c'est pas représentatif, il faut que j'aille à Prague, il faut que je voyage plus. Mais je vois un pays moderne, j'ai l'impression que. C'est des gens qui peut-être s'en sortent mieux que les Chiliens, il faudrait que je voie les chiffres. Je ne connais pas les chiffres économiques du pays, comment ils s'en sortent, les chiffres du chômage, tout ça. Mais ce n'est pas, pas ça l'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait savoir comment les Chèques ils se sentent. S'ils se sentent heureux, s'ils sont contents, s'ils arrivent à avoir une famille, s'ils ne galèrent pas trop. Parce que Chili, la vie est très difficile. Pour les Chiliens qui ne connaissent pas, je dirais qu'ils ont eu pas mal de préjugés.
Merci beaucoup, Marcela Saïd, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous pour votre intérêt.
À noter que le premier film est en salle en France depuis le 12 juillet. L'autre, Los Perros, sort pour sa part en décembre prochain.